Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, dans le domaine de l'astronautique, on parle beaucoup des Américains, de la NASA, des Russes, des Européens avec l'ESA, mais qu'en est-il des missions spatiales françaises et de son industrie? Quelles vont être ses orientations dans les 15 ans à venir? C'est ce que nous allons voir avec Jean-Loup Puget, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Je le disais à l'instant, donc astrophysicien, membre de l'Académie des sciences et surtout animateur du rapport intitulé « Les sciences spatiales, adapter la recherche française aux enjeux de l'espace ». Un rapport sciences et technologies de l'Académie des sciences qui est, si je puis dire, le tome 2, puisqu'un premier rapport sur ce même thème a été édité en 2006. Cet ouvrage, dont nous allons parler dans quelques instants, présente les travaux en cours en matière de recherche spatiale et les projets à venir dans le but de rester compétitif sur ce marché. Alors Jean-Loup Puget, première question, quel est l'état de la recherche spatiale en France? Est-elle en bonne santé ou plutôt atone?
Cette question, c'est plutôt le premier rapport qui a répondu, le premier tome qu'on a fait en 2005, qui effectivement a essayé de faire un bilan de l'état de la recherche spatiale française et de regarder effectivement quelles étaient les questions qui se posaient et les difficultés ou les atouts qu'elle pouvait avoir. Le bilan, il est plutôt positif en fait. La France a bénéficié de la création du CNES, qui était une des premières agences spatiales créées dans les pays occidentaux et qui a développé et qui a été le moteur du développement de la recherche fondamentale depuis l'espace. Il était responsable de beaucoup d'autres choses aussi, le développement des lanceurs, etc. Mais ce n'est pas le sujet qui intéresse l'Académie des sciences et les scientifiques. En fait, les sciences spatiales, effectivement, ont débuté avec l'observation en particulier d'objets astronomiques hors de l'atmosphère, par exemple les rayons X et gamma qui ne passent pas à travers l'atmosphère, mais très rapidement aussi, je pense qu'on reviendra dessus à propos du rapport actuel, l'observation de la Terre, qui a pris une importance grandissante et qui prend une importance encore plus grande aujourd'hui. Et là-dessus, les équipes françaises ont joué un rôle important, non seulement avec les satellites dits nationaux que le CNES et les Français ont construits en collaboration, par exemple, avec la NASA, mais surtout aussi dans les programmes européens.
Alors, venons-en à ce rapport. Les satellites sont aujourd'hui utilisés pour les communications, la géolocalisation, la prise de photos de la Terre vue de l'espace. Et ils sont utilisés également pour les prévisions météo et bien sûr dans la recherche en astrophysique. Autant d'utilisation qu'il est supposé que vous devez crouler sous la multitude de données spatiales. Est-ce que vous arrivez à gérer tout ce flot d'informations?
Alors effectivement, la quantité d'informations qu'on reçoit des satellites est de plus en plus grande, non seulement parce que les satellites scientifiques spécifiquement donnent énormément de données, un certain nombre de satellites dits opérationnels, ceux qui effectivement font des observations, qui servent aux agents économiques, aux gouvernements, etc., qui sont un certain nombre de satellites, bon, d'abord pour les télécommunications, mais dans des choses qui sont plus proches de la science. La météo, par exemple, qui a suivi les premiers satellites d'observation de l'atmosphère qui étaient scientifiques, mais très vite, il y a eu l'établissement d'une agence internationale, EUMETSAT, qui effectivement lance des satellites pour faire les observations qui sont utilisées pour la météo qu'on voit tous les jours sur les télévisions et qui effectivement donne aussi aux scientifiques un ensemble d'informations considérables. Donc, il y a des satellites d'observation aussi des glaces de mer, par exemple, et tout ça sont importants, par exemple, pour la navigation, mais évidemment sont une source d'information pour les scientifiques. Donc on a cette articulation entre des satellites dits opérationnels qui servent à des fins économiques ou à des fins de gestion par les gouvernements et qui donnent en même temps de l'information scientifique. Et donc l'articulation de ces deux sources d'information est un des éléments qui est une des évolutions importantes de la recherche spatiale.
Dans la recherche spatiale, il y a donc l'aspect recherche publique, on va dire, et puis il y a l'aspect privé. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la recherche spatiale française et dans l'utilisation de ces satellites, est-ce qu'on arrive à mêler correctement le public avec le privé, les intérêts économiques avec l'aspect de la recherche?
Alors la recherche elle-même, elle est faite quand même essentiellement sous forme de recherche publique. Et là où effectivement, disons, des intérêts économiques et opérationnels interviennent, qui sont parfois financés par des sources privées, puisqu'il peut y avoir des agents économiques qui ont besoin de ces données, on a aussi des agents, disons, les gouvernements, l'Union européenne, etc., qui financent, non pas de la recherche, mais des satellites opérationnels, pour des raisons de compréhension, de surveillance de l'agriculture, surveillance sur les problèmes d'alimentation en eau, sur les problèmes, par exemple, d'évolution du climat, qui est un problème très important. Donc, c'est effectivement des forces publiques, mais non recherche, qui alimentent une partie des satellites. Et cette articulation, elle se fait bien, par exemple, au niveau de la météo, puisqu'il y a une agence internationale qui fait ça et qui distribue ces données et qui les transmet aux scientifiques. Les scientifiques, eux, couvrent pour l'instant, par exemple, les satellites qui mesurent le niveau des océans, qui est un élément très important de l'évolution climatique. Le niveau des océans monte avec le réchauffement climatique. Donc c'est un élément important pour les scientifiques, c'est un élément important aussi pour les politiques, pour décider de l'urgence et à quelle échéance de temps il faudra faire des choses face à cette augmentation du niveau des océans. Et ça, pour l'instant, les satellites ont été essentiellement pris dans les budgets des programmes scientifiques. Tous ces programmes qui demandent des surveillances à long terme, y compris pour la science, ne peuvent pas être couverts pendant des périodes très longues par les scientifiques, puisque les programmes scientifiques ils développent de nouveaux instruments. Mais après, effectivement, si on veut laisser suffisamment de moyens pour développer les nouveaux instruments, il faut bien que les satellites récurrents soient pris en charge par des agences du type des agences de la météo. Alors ça, c'est un des problèmes qui est soulevé dans le rapport, c'est qu'il reste un problème de mise en place sur d'autres observations de la Terre que ce qui relève directement de la météo, de décider quelles agences et quels financements vont assurer la pérennité de ce type d'observation.
Autre interaction à développer ou à mettre en œuvre, c'est l'interaction entre la communauté des scientifiques et les programmes spatiaux militaires. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Sur les programmes spatiaux militaires, l'interaction se place plutôt au niveau du développement de la technologie et d'obtenir que les technologies qui peuvent servir aux scientifiques soient déclassifiées et transférées pour des utilisations scientifiques. Il est arrivé effectivement que des observations faites par les militaires soient ensuite transférées aux scientifiques pour être directement utilisables. C'était le cas des premières observations du ciel infrarouge. Mais disons que ce n'est pas le problème dominant.
Alors, avançons sur ce rapport. Un élément que vous soulignez parmi d'autres, c'est le temps des longues missions. Les missions sont très longues, 15-20 ans vous-même. Vous avez travaillé pendant 20 ans sur un projet, la moitié d'une carrière. Comment optimiser les moyens humains s'il y a besoin de les optimiser et comment font nos voisins ?
Alors ça, c'est un problème difficile. Les programmes scientifiques très longs, c'est le cas des programmes spatiaux, c'est aussi le cas de certaines parties de la physique. Les gens qui travaillent sur accélérateurs ont le même genre de problème. Le LHC au CERN, le grand accélérateur, a aussi des temps de développement comparables. Donc il faut effectivement recruter des jeunes scientifiques, faire que ces jeunes scientifiques ils apprennent le métier de la recherche spatiale pour pouvoir faire les manips futures. Mais en même temps, c'est cette difficulté, c'est qu'ils n'ont pas à montrer des résultats scientifiques pendant des années où ils travaillent sur le développement du projet. Les résultats arrivent tard, en quelque sorte.
Est-ce un problème de travailler pendant 15 à 20 ans ?
Oui. C'est un problème pour les jeunes scientifiques. Ce n'est pas un problème pour les scientifiques seniors qui ont en quelque sorte établi leur carrière et qui n'ont pas besoin de résultats régulièrement pour progresser dans leur carrière ou chercher un boulot. C'est le cas des jeunes scientifiques qui, effectivement, quand ils travaillent là-dessus et qui n'ont pas encore de poste stable universitaire ou dans les agences de recherche, doivent dire « j'ai travaillé à faire du développement sur des satellites, mais je n'ai pas de résultats scientifiques à montrer ». Donc ça, c'est une vraie difficulté qui se résout le plus souvent en faisant travailler les jeunes scientifiques à la fois au développement des programmes futurs et sur les données des satellites précédents. Mais l'articulation de ces programmes qui sont longs et rares n'est pas toujours idéale de ce point de vue-là. Donc c'est une réelle difficulté qui nous a amené à poser la question de savoir s'il ne fallait pas que le système de recrutement universitaire ne mettent en place des mécanismes un peu spécialisés qui prennent en compte les capacités et les qualités des gens mesurées d'une façon un peu différente que seulement les publications scientifiques.
Et comment font nos voisins, par exemple ? Comment font les États-Unis ?
Il n'y a pas de recette particulière appliquée là-dessus. Mais la question se pose dans tous les grands pays qui font beaucoup de recherche spatiale.
Dans votre rapport, il est écrit que le CNES doit prendre en compte l'arrivée de nouvelles disciplines pour lesquelles les données spatiales sont essentielles. Lesquelles ?
Ça, c'est, je pense, un des aspects les plus importants de ce rapport. C'est d'avoir mis en évidence le fait que la communauté d'utilisateurs de la recherche spatiale s'est élargie très vite dans les dernières années. Il s'est élargi continuellement depuis l'apparition du spatial, mais il y avait des disciplines du côté de l'observation de la Terre, ou atmosphère, météo, etc., ou du côté de l'astronomie, par exemple. Il y avait des communautés pour lesquelles le spatial était essentiel et qui développaient des instruments et qui exploitaient les données. On voit arriver aujourd'hui des disciplines qui sont assez différentes, par exemple des sciences humaines, qui utilisent les données spatiales, par exemple les gens qui font de l'urbanisme, les gens qui regardent les populations, les gens qui s'occupent d'agriculture ou d'alimentation, même du point de vue recherche, je ne parle pas d'aspect opérationnel, ont besoin des données spatiales qui sont le plus souvent les données globales, homogènes, bien plus que celles qui sont acquises directement au sol par enquête, etc. Donc on voit des utilisateurs qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des données spatiales. Les agences n'ont pas l'habitude de leur envoyer les données, donc il faut établir des mécanismes de distribution. Et effectivement, il va falloir instaurer, c'est ce qui recommande le rapport, instaurer des pôles spatiaux universitaires, multi-établissements, universités, grandes écoles de différents types, qui vont aller depuis les constructeurs d'instruments et de satellites à ceux qui font de l'exploitation des données et le traitement des données, disons ce qu'on appelle au premier niveau, c'est-à-dire en les rendant exploitables, à des utilisateurs qui ne sont que des utilisateurs de données, je dirais, prédigérées, et qui devront être un troisième ou quatrième cercle dans ces affaires du spatial, qui ne sont que des utilisateurs, mais qui par contre devront avoir aussi leur mot à dire sur qu'est-ce qui les intéresse pour les missions futures. Donc il faut mettre en place ces différents cercles et faire qu'ils interagissent non seulement pour la distribution des données, pour faire remonter les besoins. Et donc ça, c'est la partie la plus nouvelle qui a été identifiée.
Donc adapter l'offre à la demande.
Oui, et développer cette demande dans la mesure où aussi un certain nombre de ces utilisateurs potentiels n'ont pas forcément repéré qu'il y avait une source d'information nouvelle et intéressante. Il y a certaines équipes qui l'ont fait. C'est des équipes qui sont souvent des petites équipes universitaires dispersées dans beaucoup d'universités où il n'y a pas de spatial, par exemple. Donc on va avoir à traiter cet aspect-là. Le deuxième point qu'on a traité, d'ailleurs, c'était l'évolution du dispositif de recherche avec l'augmentation du rôle des universités dans la recherche, qui est souhaitée depuis longtemps et qui progresse. Et donc, l'organisation, par exemple, des grands pôles universitaires qui regroupent plusieurs universités ou plusieurs établissements, y compris des grandes écoles et des écoles d'ingénieurs, du point de vue du spatial, ont un rôle important à jouer dans cette phase dont on parlait de distribution des données ou de remontée des besoins, mais aussi d'utilisation des technologies, de formation, par exemple, des équipes non plus scientifiques, mais d'ingénieurs aussi du spatial. Donc, ces grands campus universitaires multi-établissements sont un des endroits où il va falloir que le spatial joue son rôle et utilise au mieux ces nouvelles structures. Donc, un des messages de ce rapport, c'est comment, et c'est ce qui nous a été demandé, c'est comment faire l'adaptation du spatial à l'évolution des structures de recherche. La recherche spatiale s'est faite pour l'instant essentiellement dans les grands organismes, le CNRS, le CEA, avec des équipes universitaires, mais qui était la partie organisation de la recherche spatiale, ça faisait surtout par les grands organismes. Aujourd'hui, il faut que les universités jouent un rôle plus grand, même si effectivement, on sait bien que rassembler des grosses équipes ne peut pas être le fait d'une université, donc il faudra ces collaborations autour de ces pôles qui se mettent en place.
Avec cette notion d'interdisciplinarité qui transparaît dans votre discours et qui vous est chère, je crois.
Absolument. Cette interdisciplinarité qui était vraie dans le spatial s'élargit beaucoup. Ce qui me frappe particulièrement, c'est effectivement l'arrivée des sciences humaines dans ces disciplines.
Est-ce que le nombre de missions retenues à chaque phase doit résulter d'un compromis ? C'est une des phrases qui ressort de votre rapport.
C'est une phrase qui n'est pas forcément facile à comprendre pour les gens qui ne sont pas dans le spatial. Les agences spatiales fonctionnent, ce qui est tout à fait légitime et un très bon mécanisme, par appel à idées. C'est une espèce d'appel. C'est pas un appel d'offres, vraiment, mais c'est un peu un appel d'offres. Mais c'est appel à idées, c'est vraiment appel à idées. C'est-à-dire, qu'est-ce que la communauté scientifique voudrait voir comme satellite et comme type de mesure ? Et dans ces appels à idées, il y a de nombreuses réponses. Il y a des comités scientifiques qui évaluent, puis il y a des tris qui sont faits. Finalement, quand une est retenue, l'agence spatiale ou les agences spatiales concernées, après, organisent des vrais appels d'offres pour construire les instruments, qui vont d'ailleurs en partie dans les laboratoires, en partie dans l'industrie. Et il y a toute cette mécanique qui, en quelque sorte, trie les projets. Et la difficulté à laquelle on fait face et qui est sous-jacente à cette recommandation là, que vous lisiez, c'est effectivement de ne pas faire travailler trop d'équipes sur de la préparation de missions qui ne voit pas le jour.
Donc, vous voulez dire qu'il y a une phase de brainstorming. De ce brainstorming, on ressort quelques idées. À ce moment-là, on met des équipes pour travailler dessus.
Alors, on met des équipes pour travailler dessus dans les phases de préparation, c'est-à-dire de démontrer que la chose est faisable, parce que dans les projets spatiaux, ce n'est pas toujours évident, et puis d'évaluer le coût et le type de réalisation qu'il faudra faire. Donc, ça, c'est des études qui demandent l'implication de laboratoires, d'ingénieurs et de scientifiques, et à un certain degré de l'industrie, qui fait des études et qui fait des chiffrages. Et c'est seulement après ces chiffrages, quand on sait que les missions sont possibles et combien elles vont coûter, qu'a lieu l'arbitrage final. Donc dans ce mécanisme, finalement, souvent une seule mission est sélectionnée. Donc des équipes ont travaillé en amont à étudier la faisabilité, à faire des développements technologiques, et finalement les missions ne voient pas le jour. Alors elles ne voient pas le jour à cette phase-là, très souvent elles sont reprises dans une nouvelle phase et elles finissent par voir le jour. Néanmoins, on a la préoccupation de ne pas multiplier plus qu'il n'est nécessaire ce nombre de phases préparatoires qui débouchent sur une seule mission. Donc ce qu'on recommande, c'est ce qui se fait dans une certaine mesure, mais qui ne se fait pas toujours, c'est que les cycles que mettent en place les agences spatiales, qui sont sur des périodes très longues, l'Agence spatiale européenne, sous l'impulsion de Roger Bonnet, qui était le directeur de la science, avait mis en place le plan Horizon 2000. Il a mis ça en place en 1985. Et les dernières missions de ce plan volent depuis l'année dernière. Donc on voit bien qu'effectivement, quand il y a un plan concerté avec des missions très grosses, des missions moyennes, les gens ont un paysage dans lequel ils essayent de s'intégrer. Alors évidemment, tout le monde ne réussit pas, mais au moins, les études préliminaires qui sont faites et pas sélectionnées à une certaine phase peuvent savoir qu'elles ont d'autres occasions, etc. Donc, on essaye de minimiser les études coûteuses en temps d'ingénieur ou de scientifique et en argent chez les industriels qui ne débouchent pas.
Alors ça, c'est pour les grosses missions, mais il y a en parallèle des petites missions spatiales où vous dites dans votre rapport qu'il est important de maintenir, de faire cette mixité entre petites missions et grosses missions.
Oui, alors ce qui, dans les périodes de contraction des budgets, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas forcément les grosses missions qui disparaissent parce qu'elles sont sur du très long terme, elles ont des engagements multi-agences, etc., qui finalement, d'une certaine façon, les sécurisent, pas toujours, mais enfin assez largement. Et c'est les petites missions qui servent de variable d'ajustement, ce qui n'est pas une bonne idée, dans la mesure où les petites missions d'abord permettent d'obtenir des résultats rapides et que si on peut obtenir des résultats avec des missions qui sont petites, les risques sont moins élevés, les résultats viennent plus vite et donc il ne faut pas faire avec une grande mission ce qu'on peut faire avec des petites. On voit bien que dans la grande agence spatiale mondiale, qui est quand même toujours la NASA en termes de moyens, même si effectivement dans le paysage mondial aussi, on voit arriver beaucoup de pays émergents qui rentrent dans le spatial. Donc le paysage est aussi en train d'évoluer très vite. Mais la NASA, par exemple, dans l'astronomie, puisque c'est mon secteur et que je vois bien ce qui s'y passe, est en train de construire le télescope spatial qui doit faire remplacer le Hubble Space Telescope, qui est le James Webb Space Telescope. Et il a eu des dépassements considérables, des difficultés technologiques. Il est en collaboration avec d'autres agences, dont l'Agence spatiale européenne. Donc, il continue malgré des dépassements financiers considérables. Et il a tué beaucoup de missions petites et moyennes dans le même secteur, ce qui n'est pas forcément optimum du point de vue scientifique.
Est-ce que vous pensez que justement, on aura plus d'observations au sol dans quelques années, dans quelques décennies à venir? Est-ce qu'on aura plus d'observations au sol que d'observations satellites?
Non, ça, de toute façon, le choix d'observer au sol ou en satellite, ça, malheureusement, c'est l'atmosphère terrestre qui nous dit ce qu'on peut observer du sol ou en satellite. Il y a en fait un tri qui est, je dirais, mieux fait. On se pose la question quand on veut observer quelque chose. On s'est posé beaucoup cette question, par exemple, pour l'observation des planètes extrasolaires. Les systèmes planétaires autour d'autres étoiles est évidemment une question importante pour l'astronomie, c'est aussi une question importante philosophiquement pour l'humanité. Et donc, c'est un sujet important, identifié par la plupart des agences qui s'occupent d'astronomie ou qui s'occupent de spatial, mais qui s'occupent aussi de télescopes au sol. Et il y a eu effectivement des études qui ont été menées conjointement, par exemple, par l'Observatoire européen austral, qui est la grande agence de l'astronomie au sol, et l'ESA, pour, sur ces sujets-là, essayer de bien définir qu'est-ce qui devait être fait dans l'espace et qui devait être fait au sol. Et il faut continuer dans cette direction. Il faut faire ce qui est optimal d'un côté et pas essayer de faire de la concurrence quand ce n'est pas optimal de l'autre côté. De l'autre côté, voulant dire sol versus espace.
Donc ce sont deux outils complémentaires.
Oui, tout à fait.
Terminons, si vous le voulez bien, par deux curiosités. Hein. C'est comme ça que je les appellerai. La première, maintenir une filière ballon. Alors ça, est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots?
Qui
paraît dans votre rapport.
Ça va bien avec ce qu'on discutait sur les petites missions et les grandes. Dans cette filiation, les ballons stratosphériques qui ont été utilisés depuis le début du spatial, qui sont donc des ballons qui montent à une quarantaine de kilomètres, donc 40 kilomètres, il n'y a plus beaucoup d'atmosphère. Il y en a encore un peu, mais il n'y en a plus beaucoup. Et donc, on peut faire une partie des choses qu'on peut faire dans l'espace dans ces ballons. Alors le gros avantage, c'est que ça permet de tester les technologies, de commencer à faire une science nouvelle. Quand on ouvre une nouvelle longueur d'onde, quand on a commencé à faire de l'infrarouge, on a commencé à le faire en ballon. Et ça permet de former les jeunes générations aussi. Donc ça a beaucoup d'avantages, et donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas renoncer. Alors ça demande des infrastructures un peu lourdes, parce que lancer des ballons stratosphériques, ça demande des équipes spécialisées, des sites spécialisés. Donc le CNES a fait ça, la NASA le fait. Toutes les agences spatiales ne le font pas. Et ce qu'on dit dans ce rapport, c'est qu'il ne faut pas que les ballons disparaissent parce qu'ils jouent un rôle crucial, à la fois pour sortir de la science, mais aussi pour maintenir le développement des équipes et des scientifiques.
Alors, autre curiosité, si vous me permettez de l'appeler ainsi, c'est assez spectaculaire parce qu'on peut filmer, c'est ce qu'on appelle la micro-pesanteur. Est-ce que le système de micro-pesanteur est amené à se développer ou est-ce que c'est uniquement du spectacle pour le grand public?
Non, ce n'est pas uniquement du spectacle. Il y a eu des études scientifiques très intéressantes qui ont été faites en micro-pesanteur, en biologie ou en sciences des matériaux.
On peut peut-être d'ailleurs rappeler ce qu'est la micro-pesanteur.
Alors, micro-pesanteur, ça veut dire effectivement utiliser le fait que dans un satellite, il n'y a pratiquement pas de gravité ou une gravité très très faible. Donc ça permet effectivement de regarder d'abord les spécificités en apesanteur. Ça permet, quand on fait ça sur des stations habitées, de faire de la médecine spatiale. Alors la médecine spatiale, c'est de la recherche, mais c'est de la recherche que je qualifierais principalement d'appliquée, c'est-à-dire si on veut envoyer des gens dans l'espace, il faut faire de la médecine spatiale, pour savoir exactement quels sont les risques, quelles sont les façons de faire. C'est un petit peu de recherche fondamentale dans la mesure où on peut utiliser l'apesanteur pour faire des études qu'on ne peut pas faire autrement. Ça permet des études très intéressantes qui ont été faites sur le système d'orientation qu'utilise le cerveau pour l'orientation dans l'espace, où effectivement, il y a la vision, il y a l'oreille interne, mais il y a aussi effectivement la pesanteur qui est ressentie par les articulations et les os. Donc on enlève une de ces composantes, et puis on peut d'ailleurs en rajouter un peu artificiellement d'autres en faisant porter un casque qui fait défiler un paysage qui ne défile pas forcément dans le sens où la sonde spatiale défile autour d'eux, et donc de séparer les différents facteurs, par exemple, de ça. Donc ça, ça a été des études qui sont effectivement de la recherche fondamentale, mais... Donc ça, c'est un aspect. La micro-pesanteur pour les matériaux, c'est aussi de permettre de faire croître des cristaux. On a mis beaucoup d'espoir dans ces choses-là. les applications sont restées assez limitées. Donc, ça a permis de faire un peu de recherche fondamentale sur les matériaux et sur les flammes, sur la solidification, etc. Plus que ça n'a amené de la réalisation. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'intérêt à aller faire de la réalisation de cristaux pour l'industrie dans l'espace.
Il existe un Airbus qui s'appelle A300-0G, qui permet d'emmener plusieurs personnes comme ça au-delà d'une certaine distance de l'atmosphère et qui permet d'être en pesanteur. Est-ce que dans ce domaine-là, il y a des applications ou de la recherche avec cet Airbus en matière de micro-pesanteur ?
Alors c'est un des moyens, c'est simplement sa limitation, c'est que les périodes d'apesanteur sont courtes, mais c'est un système qui, pour des expériences qui ne nécessitent pas des temps longs, est certainement intéressant dans la mesure où, même si c'est cher, c'est beaucoup moins cher que les satellites, se pose la question qui n'a pas été traitée dans le rapport ici, qui était l'avenir des vols habités. Ça n'a pas été traité parce qu'on était devant une incertitude importante sur l'avenir de la station spatiale internationale. Comme on le sait tous, les Américains restent la grande puissance spatiale, même si effectivement la Chine, l'Inde, le Brésil et d'autres sont en train de monter. Et donc, pour ces affaires-là, l'Europe n'a jamais fait que de répondre et de collaborer à des initiatives qui étaient des initiatives américaines. Donc, on ne peut pas répondre à une question qui n'est pas encore posée. Il faudra le faire. Et donc, l'Académie, éventuellement, y répondra le jour où elle se posera. Donc, cette question n'a pas été traitée délibérément, simplement parce que le contexte n'était pas assez clair, et pas par manque d'intérêt.
Alors, résumons-nous pour terminer cette émission. Dans les 15 ans à venir, quels sont les projets et les démarches à mettre en œuvre dans la recherche spatiale française ?
Alors, les projets, pour répondre à une question que vous m'avez posée, ce rapport ne dit pas quels sont les projets qu'il faut faire. Il y a des mécanismes pour ça. Les agences spatiales font de la prospective par discipline, et ces mécanismes marchent bien. Et on a parlé aussi de la coordination entre le sol et l'espace. Donc, on est plutôt à donner des avis, ce qui est notre rôle, sur l'organisation de la recherche et en particulier, donc, comme on l'a dit, l'évolution par rapport aux évolutions de la recherche en France, rôle respectif des universités et des grands organismes, par exemple, plutôt que de dire quel programme il faut faire. Ceci dit, les programmes, ils existent principalement au sein de l'Agence spatiale européenne, mais aussi nationale et bilatérale, collaboration du CNES avec d'autres agences. De ce point de vue-là, chacun détermine sa politique. La préoccupation qu'on peut avoir et qui était mentionnée dans le premier rapport, c'est effectivement de s'assurer que c'est bien les nécessités scientifiques qui président aux missions choisies, plus que simplement des raisons de type politique, de collaboration bilatérale. Et collaboration bilatérale, c'est important. On peut comprendre que les politiques et les priorités vers telle et telle nation, et les scientifiques s'inscrivent dedans. Il ne faut pas que ça soit ça qui dicte le choix, par contre, des missions scientifiques.
Eh bien, je vous remercie Jean-Loup Puget. Je rappelle le titre du rapport « Les sciences spatiales, adapter la recherche française aux enjeux de l'espace » sous votre direction, mais bien sûr la contribution nombreuse de vos confrères. Et puis, donc, on retrouve une partie de ce rapport sur le site de l'Académie des sciences, www.academie-sciences.fr. Merci Jean-Loup Puget, et puis j'espère à bientôt pour une prochaine émission. Merci.
Merci aussi.